des différents messages que j'ai apportés jusque-là. Et la dernière fois, je vous avais apporté un message sur le salut que j'avais considéré comme un message préparatoire à justement ce message que je vais vous apporter également sur le salut, mais partant évidemment de l'épître de Jacques. Alors, pour introduire quelques rappels, on avait vu la dernière fois que l'auteur de l'épître de Jacques est le demi-frère du Seigneur. On avait vu que le roi Hérode avait fait mourir par l'épée l'apôtre Jacques, donc en l'an 44. Donc ceci, vous pouvez le retrouver dans le livre des Actes, au chapitre 12, verset 2. Pierre, Jacques et Jean ont été donc les principaux dirigeants de l'Église primitive à Jérusalem. Nous avons également vu que le message central de l'épître de Jacques, c'était donc la foi en action, avec évidemment en toile de fond les œuvres correspondantes. Mais de quelles œuvres s'agit-il en réalité? Lors de mon dernier message, nous avons vu que le salut est un don gratuit de Dieu, qu'il s'acquiert par le moyen de la foi en Jésus-Christ, seul, que le croyant authentique ne peut perdre son salut, Dieu n'ayant pas une justice à géométrie variable. Paul écrit que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, donc très clairement, en Romains 3, verset 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Ceci est redit, répété plusieurs fois dans l'Écriture. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi seul en Jésus-Christ. Il dit de surcroît que nous sommes sauvés pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et ceci, on le lit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Paul affirme aussi que le croyant doit être zélé pour justement ses bonnes œuvres. Il le dit en Tite 2, verset 14, « Car justement la foi doit agir par l'amour. » Souvenons-nous, si nous avons la foi et que nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Exactement, comme un disque. En Galates 5, 6, il le dit, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Dans la version seconde, 1910, à la place de l'amour, donc c'est écrit la charité. Donc vous voyez, c'est synonyme. L'amour, plus que tout. Jacques, lui aussi, affirme que la foi en Jésus-Christ doit être notre premier centre d'intérêt et que celle-ci doit se traduire par des actes. Il le dit, d'ailleurs, dans son épître, ici, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Nous sommes unanimes sur la question. Évidemment, non. Alors, je vais vous inviter maintenant à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Jacques, chapitre 2, et nous lirons les versets 14 à 26. Jacques 2, 14, 26. Si vous avez trouvé, je commence ma lecture. Jacques 2, 14, 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? » Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un Dieu, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres ? Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Une épître à polémique, vous en conviendrez dès la lecture. Et justement, j'ai intitulé mon message ce matin, le salut, un même message apostolique. Ça veut dire que d'emblée, je me situe dans une position où il n'y a aucune ambiguïté sur l'unicité de l'Écriture, de la Bible. Et c'est ce que nous allons tenter ce matin, donc, d'expliciter. Le premier point de ce message, c'est que Jacques commence par dénoncer une prétention erronée. C'est ce qu'il dénonce dans les versets 14 à 17. Il nous invite d'emblée à réfléchir à deux questions. Qu'en est-il de la première? Verset 14. Que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Première question. Dit autrement, il ne suffit pas de dire qu'on a la foi si celle-ci ne se traduit pas par des actes. Comment savoir quelle utilité pour mon prochain et aussi quelle utilité pour soi-même? Deuxième question, toujours dans le même verset. Cette foi peut-elle le sauver? Alors, j'ai noté que cette question suppose plusieurs aspects. Premier point, ça suppose qu'on a besoin d'être sauvé de la colère de Dieu à cause de nos péchés. C'est le premier. Le second, c'est que le salut est par la foi. Troisième point, c'est qu'on peut prétendre faussement avoir la foi. Paul est parfaitement en accord avec l'analyse de Jacques. Nous lisons d'ailleurs en Tite 1, au verset 16, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. » Aucune ambiguïté entre Paul et Jacques sur ces questions. Souvenons-nous du cas de Simon le magicien en Samarie, voulant acheter le don du Saint-Esprit, bien que baptisé par Philippe. Vous rappelez de Simon le magicien? Et on peut les lire. Donc c'est un acte 8, 20. Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Nous l'avons vu tout à l'heure dans notre méditation. Christ a tout payé. Venez, mangez, buvez sans argent, sans rien payer. Voilà ici un exemple de quelqu'un qui fait faussement profession de foi. Jacques, dans son analyse, dans son développement, traduit ensuite sa première question par un exemple pratique. Versets 15 à 16, il le dit, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? À quoi cela sert-il ? Quelle est l'utilité d'une parole compatissante si elle n'est pas suivie de l'acte de compassion qui lui est associé ? Quelle est l'utilité ? C'est ce que Paul rappelle ici. Et pour conclure, verset 17, Jacques, donc il le dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. L'épître de Jacques, la foi en action. En résumé, une foi vivante est agissante. Dès lors, une foi qui n'agit pas n'est pas vivante, mais morte. Car en réalité, elle n'a jamais été vivante. Le deuxième point, ici développé par Jacques, c'est que il dénonce une dissociation erronée, fausse, inexacte. Les versets 18 à 19. Jacques fait une objection pour finalement la refuter. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. J'ai noté qu'en filigrane, en réalité, il y a là deux questions. La première, c'est que pourquoi certains ne pourraient-ils avoir la foi sans les œuvres et d'autres avoir les œuvres sans la foi? Ça, c'est la première question en filigrane. La seconde, c'est pourquoi la foi et les œuvres seraient-elles toutes deux nécessaires et obligatoires pour tous les chrétiens? Réponse, verset 18b, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Autrement dit, n'importe qui peut dire qu'il a la foi, mais comment le savoir si ses actes ne le montrent pas? Comment? On ne peut donc dissocier la foi authentique des œuvres. C'est la conclusion à laquelle Jacques veut parvenir ici. La foi et les œuvres sont donc indissociables. Il dénonce donc une dissociation erronée quand on veut séparer la foi et les œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. La vraie foi inclut la croyance en certaines vérités, notamment en l'existence et en la bonté de Dieu. Ça, nous le lisons dans Hébreux 11, 6, qui dit ceci, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi en action. La vraie foi, elle inclut aussi de croire en la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour nous sauver. Et ce texte, vous l'avez dans 1 Corinthiens 15, des versets 1 à 4. J'en ai fait juste un résumé, mais je vous exhorte à relire ces passages chez vous. Donc, calmement. Donc, 1 Corinthiens 15, 1 à 4, qui dit ceci en substance, en résumé. Je vous rappelle l'évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. À savoir, bien sûr, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, les prophéties, et en particulier les prophéties dans Isaïe 53, mais pas que, toute l'Écriture parle de Christ. Mais ce sont là juste quelques balises pour vous remémorer ces aspects. C'est pas tout. et qu'il est ressuscité le troisième jour, là aussi, selon les Écritures. La vraie foi, elle comporte certes une croyance, car on ne peut croire en Dieu et en Jésus-Christ sans croire ce qu'ils disent et promettent. On l'a vu, les démons croient que Dieu existe, n'est-ce pas? Et ils en tremblent. Donc il ne suffit pas de dire que je crois. C'est donc aussi la croyance, une adhésion du fond du cœur à ces vérités qui conduit à trois points. Le premier, à se repentir de sa vie sans Dieu. C'est aussi dès lors qu'on se convertit, mais aussi tout au long de la vie chrétienne. Donc vous voyez que nous avons des moments de repentance. Nous avons sans cesse besoin d'aller à la source pour que Dieu nous renouvelle, lui qui est fidèle. Deuxième point, à mettre sa foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour être sauvé. C'est par lui et par lui seul. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui seul. Troisième point, à s'efforcer à obéir, j'ai souligné, avec son aide, à ses commandements. N'est-ce pas? Avec son aide, prenez mon joug sur vous. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Avec son aide, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Christ habite en nous pour nous accompagner journellement. Nous avons ce devoir impérieux de retourner à la source pour être abreuvés en sorte que nous puissions marcher continuellement en nouveauté de vie. En résumé, pour ce point, la foi véritable, celle qui sauve, se traduit par des actes d'obéissance à Dieu et de service à autrui. Paul a parlé d'amour, l'amour pour le prochain, de service à autrui. Christ et Paul en disent autant. Il n'y a pas de contradiction sur ces aspects. Mais quelques éléments semblent contradictoires et c'est ce que nous allons voir dans la troisième partie. Jacques semble contredire Paul, c'est ce que nous voyons et c'est ce que nous avons lu dans les versets 20 à 26. Pourquoi ? Verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ça commence bien. Homme vain, Paul parle d'insensé. Donc vous voyez, chacun a son langage. Jacques ici, ô homme vain. Pour le prouver, Jacques utilise deux exemples de personnes très différentes pour inclure justement tous ceux qui sont entre les deux. Qui sont ces personnes? Abraham, le patriarche du peuple juif, très âgé, converti depuis longtemps, une expérience dans la foi, Et à contrario, vous avez Rahab, une cananéenne, païenne, prostituée, convertie depuis peu. D'abord, Rahab, la prostituée. Que dit Jacques? Verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et, vous voyez l'importance de cette conjonction de coordination, qu'elle les fit partir par un autre chemin, en risquant sa vie pour protéger les deux Israélites. Rahab donne une preuve visible de la réalité de sa foi au Dieu d'Israël. On le voit clairement en Josué 2, les versets 9 à 11. C'est d'abord la foi de Rahab qui s'est exercée, parce qu'elle a eu foi, qu'elle a pu poser un acte de foi. Donc l'acte n'a pas précédé la foi. Donc, dès le début, l'action de Rahab prouve l'authenticité de sa foi. Et ceci est clairement dit en Hébreux 11, 31, qui dit ceci, « C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Aucune ambiguïté sur ce point. Maintenant, examinons ensemble le cas du patriarche Abraham. C'est des versets 21 à 24. Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Verset 22, tu vois que la foi agissait, littéralement œuvrait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Verset 23, et ici s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Cela est dit dès la Genèse, en Genèse 15, 6. Et il fut appelé ami de Dieu. Jacques le rappelle et on le voit aussi donc en 2 Chroniques 20, 7 et ici aussi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, au verset 8. Donc, il n'y a aucune ambiguïté pour Jacques sur ce point. Verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Là, manifestement, comment ne pas y voir ici une contradiction avec ce que dit Paul ? En Romains 3, 8, que nous avons lu tout à l'heure en introduction, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Paul est très clair et qui le prouve en citant justement un événement de la vie d'Abraham 40 ans avant son sacrifice d'Isaac. Paul le dit clairement ici en Romains 4, versets 3 à 5. Que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. La réponse ici, c'est que Jacques utilise le mot justifié tout simplement dans un autre sens que Paul. Vous vous souvenez, lors de mon dernier message, j'avais défini ce qu'était la justification. Dans la justification, il y a deux mots grecs. Donc, d'où découle le mot justification qu'on utilise en français. Donc, ces deux mots grecs ont donc des sens différents. Par contre, en français, on n'a trouvé qu'un seul mot, la justification. Ça veut dire que vous avez d'une part la justification en tant qu'acte juridique. Donc Dieu déclare le coupable juste devant sa juridiction. Donc ici, il y a une justification dans le sens déclaratif. Et après, vous avez une justification factuelle, donc l'acte de la justification. Donc vous voyez que les deux apôtres vont utiliser le même mot, mais dans des contextes tout à fait différents. Dieu, souverainement, déclare le coupable juste en vertu de la foi en Jésus-Christ. C'est une déclaration, donc c'est un aspect déclaratif de la justification. Et après, vous avez l'aspect factuel. C'est les actes, les œuvres, les actes justes qui découlent justement de la foi. Des actes justes en harmonie, en accord avec la parole de Dieu. Donc des actes de justice. Donc, vous voyez, vous avez ces deux termes, vous avez ces deux aspects pour un même mot, la justification. L'aspect déclaratif, comme dans un tribunal, Dieu déclare un coupable juste. Et vous avez l'aspect factuel, en ce sens que vous avez des actes qui découlent justement de cette justification qui découle justement de la foi, des œuvres, de la foi, justement les bonnes œuvres préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc vous voyez, en soi, il n'y a pas d'ambiguïté dans ces paroles, donc dans ces compréhensions de l'Écriture par rapport au salut. Alors, donc, je précise ici que Paul utilise le terme « justifié » au sens de déclarer juste celui qui croit à ses promesses dès l'instant qu'il croit. C'est déclaratif. Dieu déclare le pécheur juste. Notez que Jacques utilise le mot « justifié » dans un autre sens que Paul. Verset 24, Jacques cite lui aussi Genèse 15, 6 et ajoute la remarque « Et il fut appelé l'ami de Dieu ». Autrement dit, il a été déclaré juste devant Dieu. Il fut appelé l'ami de Dieu. Autrement dit, il reconnaît que dès l'instant où Abraham a cru aux promesses de Dieu, et bien avant d'offrir Isaac sur l'autel, Dieu l'a considéré comme juste à ses yeux. Ce que Paul, mais pas Jacques, exprime par le mot justification. Donc on a la réponse au verset 22. La foi agissait, donc littéralement œuvrait, avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions, rendant ainsi la foi parfaite. Parole vivante dit ceci, la foi et les œuvres agissaient de concert, se complétant mutuellement. Quand Jacques dit qu'Abraham a été justifié par cet acte, il veut dire que par cet acte, Abraham a prouvé la réalité de sa foi. Un acte juste, conforme à la parole. Là, nous avons l'aspect factuel de la justification. La justification dont parle Paul au verset 24 est la preuve que la foi du croyant Abraham est une foi authentique. La foi du croyant Abraham, justifié par la foi. Et non par la déclaration que le pécheur Abraham est considéré comme juste par Dieu, ce qui du reste a eu lieu 40 ans auparavant, 40 ans avant le sacrifice d'Isaac. Donc, voyez-vous, il n'y a pas de contradiction entre Jacques et Paul. Ça veut dire que aucune œuvre n'est nécessaire pour que le pécheur soit déclaré juste. La foi seule suffit. Mais des œuvres sont indispensables pour justement authentifier la réalité de la foi. La foi seule justifie, mais la foi qui justifie ne reste jamais seule. Elle produit toujours des œuvres de justice. Alors, pour conclure, je reviens sur une réalité biblique, c'est que toute la Bible est inspirée de Dieu. Paul le rappelle en 2 Timothée 3,16. Elle ne peut comporter de contradiction et surtout pas sur le salut. D'où le titre de mon message, sans la moindre ambiguïté. Un même message apostolique, que ce soit Paul, Jacques, Pierre, Jean, tous ont parlé le même langage de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, je le rappelle parce que c'est une épître qui a quand même semé des clivages dans pas mal de courants évangéliques et ailleurs. Et on se rend compte que non. La foi seule en Jésus-Christ justifie le pécheur repentant et rien d'autre. Les œuvres n'ont aucune place. Les œuvres humaines n'ont aucune place. En revanche, par la foi, nous sommes appelés à entrer dans des œuvres justes, préparées d'avance, ce qui n'est pas la même chose. Le mot « justification » est utilisé dans des contextes différents. Paul, c'est déclaratif, c'est la déclaration par Dieu que le pécheur qui croit est désormais juste à ses yeux. Jacques, c'est donc factuel, la preuve que donne le croyant à Dieu et aux hommes que sa foi est authentique. Le mot de la fin, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Qu'en est-il de ma foi? Je me la pose à moi-même. Que Christ soit béni, que son enseignement nous fortifie jour après jour. Alors, je vais vous inviter donc à...